France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous.
Okay. Go ahead and have a seat.
My name is Mark S.
I'm Helly R.
My name is Irving B.
My name is Dylan G.
And I have, of my own free accord,
elected to undergo the procedure
known as severance.
Awesome.
I give consent for the Lumen Corporation.
And it's a good corporation.
To sever my memories between my work life.
Voilà, on écoute là la bande-annonce de la première saison de la série Severance, conçue par le scénariste Dan Erickson et réalisée par Ben Stiller, l'histoire de quatre employés de bureau d'une compagnie mystérieuse baptisée Lumon qui ont accepté de se laisser implanter dans le cerveau une puce dissociant complètement leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Dans la journée, leur mémoire, leur nom de famille est effacé, celui ou celle qu'ils sont au travail n'est plus celui ou celle qu'ils sont dans la vie et qu'ils retrouvent en fin de journée, tandis que les souvenirs de ce qu'ils ont fait au bureau s'évanouissent. Totalement. Contrôle des entreprises, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, technologie, paranoïa, dissociation, cassure existentielle. Bénéficiant d'un casting ultra prestigieux, la première saison diffusée par Apple dans le contexte post-Covid en 2022 a tout de suite suscité un engouement considérable en ligne aux États-Unis avant de récolter 14 nominations aux Emmy. La seconde saison diffusée entre janvier et mars dernier a propulsé Severance à la première place non seulement aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Australie, en Allemagne, en France, au Mexique, en Espagne. Cette bombe existentielle, étrange et anxiogène, ainsi que la qualifiée écran large, dresse non sans roublardise le portrait d'une époque indéchiffrable, la nôtre. Et pour en parler, Ariane Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine, vous êtes aussi essayiste, vous avez publié Succession, la violence en héritage, qui est une analyse philosophique de la série Succession chez Playlist en 2024. Léa Colombo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique série aux Échos Week-end, et vous avez couvert les deux saisons de Severance, donc. Et Éric Sadin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste des technologies numériques, vous allez publier cet automne un essai qui s'appelle « Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle ». Et vous êtes aussi à l'initiative du contre-sommet de l'IA qui s'est tenu à Paris en février 2025, tandis que le sommet mondial était organisé par la France au même moment. Alors, on ne va pas parler d'IA, on va parler de Severance, mais les deux sujets sont plus ou moins liés. C'est une série, d'abord, je le disais, extrêmement prestigieuse. Le casting est extrêmement prestigieux. Hein. On y trouve Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, et puis la toute nouvelle Brit Lauer, qui est fantastique. C'est une série qui coûte 20 millions de dollars par épisode, en tout cas la deuxième saison, et qui donc fait un tabac. D'abord, un petit tour de table sur ce qu'on en pense les uns les autres. Léa Colombo.
Je trouve que c'est une très bonne série, car elle nous met vraiment dans un univers dystopique fascinant. Elle est sortie dans un contexte très particulier, qui était celui du post-Covid. Et je pense que c'est pour cela qu'elle a aussi bien marché chez nous ou dans nos foyers. À ce moment, on se demandait justement qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'allait devenir un petit peu notre lieu de travail. À l'époque où le télétravail se développait particulièrement, ça peut expliquer en partie le succès de la série. Mais personnellement, je l'ai beaucoup aimée car elle ne mâche pas le travail du téléspectateur.
Oui, c'est bon, on peut se dire.
On se pose beaucoup de questions sans avoir forcément de réponse. Et il y a vraiment un travail esthétique sur l'identité, sur le lieu de travail, sur la dissociation entre qui nous sommes dans le monde réel et qui nous sommes en tant qu'employés productifs, qui sont vraiment des questions très pertinentes. Et cela fonctionne très bien sur deux saisons.
Ariane Nicolas.
Moi, je trouve que la saison 1 était aussi très... très nouvelle, donc rafraîchissante, et notamment parce qu'en fait, elle était assez malaisante à plein de niveaux,
oui.
Dans le jeu des acteurs, y compris dans la production design, quoi. Donc c'est-à-dire les décors, le rythme aussi. Il y a un mélange entre quelque chose de très vintage et de très futuriste, qui est vraiment tout à fait nouveau. C'est des vieilles bagnoles des années 80, et en même temps, on sent que la question de l'IA est quand même pointe derrière. La saison 2, je la trouve très bien sur la première partie. Elle s'effondre, à mon avis, un peu sur la fin. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop d'éléments, ils ne savent pas exactement où ils vont. Mais sur les questions philosophiques qu'elles sont soulevées, je les trouve quand même tout à fait stimulantes, notamment effectivement la question de l'identité personnelle, le rapport au travail. Qu'est-ce que c'est que d'être sincère? Qu'est-ce que c'est que d'être soi? Comment est-ce qu'on peut être en relation avec les autres si par ailleurs on a choisi de faire cette coupure, donc voilà, je pense qu'elle est très stimulante à plein de niveaux.
Les six premiers épisodes de la saison 2 en particulier sont vraiment très intéressants.
Tout à fait.
Et ça dépasse la simple question du travail, c'est vraiment une interrogation philosophique sur l'être. Quoi.
On sent qu'il y a une ouverture, quoi. Effectivement, la première saison est très sur le travail, mais...
Et alors, Eric Sada.
Alors, je crains que je vais jouer le rôle, tenir le rôle du rabat-joie, voire du mouton noir, mais on va dire que j'ai l'habitude. Alors, le propre des séries à succès, et c'est vraiment une série à succès, c'est qu'elles font parler. Elles génèrent beaucoup de commentaires, d'articles, voire des émissions de radio-télévision, n'est-ce pas ? Et on va dire, alors je ne suis pas spécialiste des séries, mais je vous propose une topographie très rapide que tout le monde connaît, que... En gros, depuis le tournant des années 2010, il y a deux genres de séries, deux grands genres. C'est les séries historiques, mythiques, par exemple Game of Thrones, qui a vu des foules à l'époque, produite par HBO, ne pas pouvoir tenir une semaine d'impatience, suffoquer d'impatience, compter les heures pour voir les deux épisodes suivants, n'est-ce pas ? Ou des séries qui se rapportent à des faits ordinaires ou fantastiques. Et puis il y a un autre genre... qui est devenu quasi majoritaire en termes d'aura symbolique, c'est celui, les séries qui portent sur le monde contemporain, dont peut-être qui a été inauguré en grande pompe, avec beaucoup de brio, dont on peut faire remonter, d'autres pourront le faire remonter à plus haut, ou à plus bas, ou à plus récemment, à The Wire, dont on peut penser que c'était une sorte... Ça avait presque valeur, c'est pour ça que ça avait été beaucoup apprécié.
C'est une chronique sociale.
Voilà, ça avait valeur de quasi-document sociologique, et puis plus tard, Black Mirror... totalement sur le contemporain, et voir sur ce qui vient, avec une dimension hypothétiquement prospective. Et puis donc maintenant, Severance. Et le fait est que ces séries qui portent sur le contemporain, quand elles sont bien faites, elles rencontrent un énorme succès. Elles rencontrent un énorme succès, et nous, on en fait... Alors là, je vais commencer la dimension critique que je compte apporter aujourd'hui. Nous, on en fait, puisqu'elles portent sur le contemporain, qu'elles font beaucoup parler, on en fait des miroirs de l'époque, voire des clés d'intelligibilité de l'époque. Ou voir, mon cher Marc, un signe des temps, ou des signes des temps. Mais elle est là, notre grande erreur. J'en ai plus pour longtemps. Elle est là, notre grande erreur, notre illusion, notre grande illusion, comme on disait. Voir... Si on va plus loin, je vais presque plus loin, voir notre compromission. Parce que, en réalité, elles sont le fruit d'une concurrence, ces séries-là qui portent sur le contemporain, d'une concurrence acharnée entre des grands studios, au premier rang desquels, on le sait, Netflix, Max, Amazon, et donc Apple TV, donc parmi d'autres. Et à ce titre, il convient de... d'écrire l'ordre des choses, c'est-à-dire on a des studios, des showrunners, des scénaristes qui vont collecter des faits de l'époque, qui vont les collecter, qui en font une sorte de documentation en vue de construire une série, et qui en général les agglomèrent, en font une sorte de condensé, et quand on les voit, on se dit « Ah ben voilà, ils nous montrent... Il révèle des phénomènes de l'époque. Mais mon Dieu, est-ce qu'on nous en sommes là dans l'état de nos consciences? C'est-à-dire que là, ça porte sur le travail, par exemple. Je termine juste sur cela. Ça porte sur le travail. Mais ça fait 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'il y a quantité de témoignages, de littérature sur le travail. Je pense à France Télécom, le rendu de jugement, qui est un jugement historique. Et donc tout ça s'est passé sous nos yeux. Il faut que ça soit l'industrie de la Silicon Valley du divertissement qui soit tenue comme un éveilleur des consciences. Alors, c'est le monde à l'envers et c'est comme si Adorno n'avait jamais existé.
Nicolas.
Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur certaines séries. Et notamment, je pense que le gros succès récent sur Netflix, c'était la série Adolescence, qui pour énormément de gens a eu valeur de vérité. On comprenait comment les adolescents se rapportent entre eux, on comprenait la menace, enfin on était censé en tout cas comprendre la menace masculiniste, tout ce qui est de la violence, le sexisme, etc. Et cette série devait être une sorte de reflet du réel et quelque chose qui nous faisait rentrer dans la tête des adolescents qui sont toujours sur leur smartphone et que les parents ont de plus en plus de mal à comprendre et un peu à observer. Je crois que Severance, c'est un peu différent dans la mesure où c'est une dystopie et où elle est toujours sujette à un trouble. On ne sait pas exactement de quoi elle parle. Elle joue énormément sur ses mystères, sur les
ellipses. Sur le travail quand même, beaucoup.
Elle est beaucoup sur le travail, mais d'une certaine manière, on ne sait pas exactement ce qu'elle dit, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'il y aura une thèse qui sera vraiment défendue de manière plus forte sur la question du travail. Mais par la dystopie, il y a toujours cette dialectique qui est de savoir, est-ce qu'on est en train de me dire, c'est le monde affreux dans lequel on pourrait arriver si on ne fait pas en sorte de le freiner, ou est-ce que c'est pas déjà un miroir déformant de ce qu'on vit?
Lia Colombo.
Effectivement, je pense qu'il faut un petit peu nuancer ce que nous dit la série, car il ne s'agit pas uniquement de travail. En tout cas, dans la première saison, effectivement, on est coincé, emprisonné, dans des surcadrages, dans ces bureaux qui sont très stériles. Mais au-delà de ce lieu de travail qu'est Lumon, on voit bien dans Severance que c'est tout un monde, finalement, qui est emprisonné. Il y a beaucoup la question de la religion coercitive, notamment dans la seconde saison. C'est vraiment tout un univers kafkaïen qui se dévoile à nous en tant que spectateurs. Et donc, c'est vraiment à prendre avec un gros grain de sel sur ce que ça nous dit, notamment de notre futur, de l'évolution de nos rapports sociaux et de notre rapport au travail.
Il y a des pistes très intéressantes dans la série, moi, il me semble. Dans la première saison, en fait, ce qu'on découvre, c'est que les salariés, les quatre salariés arrivent dans une espèce d'espace vert, nu. Ils s'asseyent devant des ordinateurs dont on n'arrive pas à savoir de quelle époque ils datent. Années 80, années 70, 2035, on ne sait pas. Et ils doivent sélectionner des chiffres qui se baladent sur l'écran et les mettre dans des sortes de dossiers. Et ils doivent sélectionner des groupes de chiffres, mais la sélection, alors que l'univers est censé être entièrement rationnel, la sélection se fait intuitivement par un sentiment qu'ils éprouvent à la vue de certains chiffres, et ce sentiment, c'est la peur. Et donc, il y a un jeu comme ça constant entre un univers logique, hyper logique, et une intuition qui est systématiquement, qui rôde autour de la terreur. Et moi, je trouve que c'est d'ailleurs dit à un moment donné dans la série, la terreur sans laquelle rien ne se fait. C'est un des éléments, c'est là où il y a effectivement une réflexion sur le travail, mais il y a quelque chose d'un peu plus sur la technologie. Et puis on va le voir tout à l'heure quand même sur la scission intérieure, où là, il me semble que ça va quand même beaucoup plus loin. Nicolas, et après on va revenir.
Ça renvoie à une réflexion qu'ont notamment, alors pas tous les corps de métier, mais les cols blancs, qui sont quand même, je pense, la cible première de cette série qui est produite par Apple, donc sur une plateforme qui coûte un peu cher, et qui achètera après des iPhones, si possible. C'est la question du travail émotionnel. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va au travail, on a effectivement une rationalité qui est là pour lancer des projets, etc. Mais de plus en plus, et ça a été critiqué par des sociologues du travail, on est censé aussi amener quelque chose de l'extérieur à l'intérieur du monde du travail. C'est-à-dire de la compassion, de l'écoute, une forme d'animation, des compétences qui ne sont pas censées être des compétences, on va dire entre guillemets, dans la vraie vie, en dehors du portique ou de l'ascenseur de Lumon, mais qui sont en fait phagocytées par le monde du travail, comme si le travail essayait de nous voler tous nos instants de vie intime, de vie privée, et avait effectivement un devenir totalitaire qui était proprement inhumain. Et c'est vrai que dans la saison 1, on se dit, c'est une vision de l'enfer, c'est un enfer où tous les murs sont blancs, mais on a l'impression quasiment qu'ils sont...
C'est ce que dit d'ailleurs à un moment donné le personnage de Patricia Arquette au début de la saison 1, elle dit il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à propos de l'enfer, je ne sais plus comment elle le dit exactement, c'est que c'est quelque chose que l'homme imagine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme est capable de réaliser ce qu'il imagine. Et c'est pas sans intérêt. Et effectivement, cette façon d'intégrer tout, les éléments subjectifs, les éléments émotionnels, sont très présents au début de la deuxième saison. Il y a ce moment où les employés qui se sont révoltés à la fin de la première saison, leur révolte est mise en avant par Lumon comme une stratégie de communication. Et eux-mêmes sont promus pour s'être révoltés. Ce qui est une sorte de...
Il n'y a pas d'échappatoire.
Alors, pour aller dans le sens de, dans votre sens, Éric Sadin, dans le sens de pas d'échappatoire, il y a des éléments intéressants sur la promotion de la série, en particulier de la deuxième saison, puisque le 14 janvier, juste avant le lancement, Apple a réalisé une performance surprise dans la gare Grande Centrale de New York, où 500 000 travailleurs déboulent tous les jours depuis les banlieues pour aller bosser, et ils ont découvert derrière une cage de verre d'abord des figurants, puis les acteurs qui sont apparus par surprise pour jouer leur propre rôle dans le décor de Sévrance à l'intérieur d'une cage de verre, et ils ont pu filmer avec leur iPhone les iPhones donc d'Apple, les acteurs jouant leur propre rôle de la série, ce qu'ils ont immédiatement posté sur les réseaux sociaux et qui a considérablement assuré la promo de la série.
Absolument. Parce que en réalité, nous avons affaire du début à la fin à une mise en abîme. Je vais m'expliquer. Ah oui. C'est Apple TV+, hein, le producteur, enfin le studio. Ah,
c'est le studio.
C'est le studio.
Le producteur, c'est
Fifth Season Production.
Voilà, c'est ça.
C'est le studio.
C'est Ben Stiller, en fait.
Ce qui est marquant, c'est que la temporalité est non datable. Je dirais pas du tout que c'est intemporel, pas du tout. La temporalité précise est non datable, mais en réalité, la séquence est très datable. Je m'explique. Les objets vont tous, les objets technologiques ou les costumes, les voitures, vont tous du tournant des années 80 à aujourd'hui. Alors, on a affaire à des tourne-disques, des lecteurs de cassettes. C'est un peu cocasse hein, pour une série dont on voit bien qu'elle a une dimension contemporaine. Des voitures aux formes angulaires, Harmony Cobell, une des femmes, elle a une Golf GTI, il y a une Volvo des années 80, un vidéoprojecteur. Bon, bref, un iMac de la fin des années 90, mais qui n'a pas vraiment un iMac, il y a des quasi-Minitel. Et donc, j'ai lu que c'était un décor rétro-futuriste. Pas du tout, c'est pas ça le rétro-futurisme. C'est une dispersion de marqueurs temporels. Mais de quelle période? C'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est tourné en années 80 à aujourd'hui, puisque ça va jusqu'au smartphone. Hein. On voit bien qu'il y a du contemporain, il y a quelque chose qui est d'aujourd'hui. Mais c'est quoi cette période? C'est que 50 dernières années, on le sait tous. C'est l'implacabilité d'un management toujours plus scientifique, toujours plus justement adossé aux technologies numériques, fondé sur le benchmarking via les données. Et donc, à quoi on a affaire? On a affaire. Et c'est ça aussi qui me gêne. Et donc, je me dis, c'est l'exercice de la série. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf de prendre comme un témoignage. On a un catalogage, mon Dieu, mais surligné de toutes les dérives du management. Alors, j'en ai noté quelques-unes parce qu'il faut bien que nos auditeurs sachent à quoi on a affaire. Fragmentation des tâches, mécanisation des gestes, absurdité des missions impartites, open space. Évidemment, il fallait qu'il y ait l'open space, ça va de soi, hein. Hyper hiérarchisation, board invisible, c'est-à-dire la direction totalement invisible qui échappe. À la fin de la 2, on découvre, il manquait plus que ça, n'est-ce pas, hein, la délocalisation, avec les drames que ça crée sur les êtres. Évidemment, d'un point de vue prétendument positif, il faut aller chercher ça dans le magasin, séance de bien-être, séjour de cohésion, et puis les récompenses et les primes. Donc moi, je trouve ça extrêmement grossier. C'est-à-dire, une fois encore, on en parle d'une description clinique qui décrirait les choses, des phénomènes qui ont à l'œuvre dans le monde du travail. Mais mon Dieu, le nombre, la littérature sur le travail qui est à l'œuvre, sur le management, sur toutes les dérives du management, qui est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années.
Qu'est-ce que ça peut faire?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est de la source première.
Et alors?
Et là, c'est de la source ternaire, seconde ou ternaire. Non, mais attends, je termine si vous voulez bien, Marc. De la source ternaire, on en fait un marqueur de l'époque. Mais quelle blague! Qui est le studio? C'est Apple. C'est-à-dire que là où ont lieu ces méthodes, moi j'écris sur les startups il y a 10 ans, sur la supercherie des startups et des méthodes cool de management, là où il y a du severance à l'œuvre, c'est dans l'Apple Park notamment, et dans la Silicon Valley. Ils sont tous pressés comme des citrons. Ils rentrent chez eux. On imagine qu'ils sont totalement réduits à rien du tout. Et ils voient des séries pour s'en sortir. Donc la mise en abîme, vous voyez, elle va jusque là.
Oui, voilà. Oui, mais le fait d'utiliser des sources premières pour faire des sources tertiaires, c'est le principe de tout le processus créatif.
Oui, mais on le prend comme un témoin du temps. C'est ça que je veux dire. Un marqueur, c'est pas un marqueur. C'est-à-dire, on le prend comme un phénomène. C'est pas un phénomène.
On reste sur de la fiction, il faut quand même le rappeler, à prendre encore une fois avec des degrés un petit peu de conscientisation différents. Mais effectivement, c'est très intéressant ce que vous évoquiez sur la fragmentation des tâches.
Ah ben on a tout.
Et la question du management terrible. Mais d'un point de vue un peu positif et optimiste, la série raconte également qu'il ne faut pas avoir une vision fataliste de ces phénomènes, car les personnages, quels qu'ils soient, arrivent finalement à surmonter et à dépasser cette question de la fragmentation des tâches, de l'absence de lien qui est fait justement pour les inciter à travailler, pour les inciter à être simplement le produit d'une productivité extrême. Les personnages arrivent à avoir des liaisons, arrivent à développer des panels de valeurs, une morale complète.
Oui, mais alors c'est là où ça devient vraiment très ambigu, justement. C'est justement parce qu'ils arrivent à développer des liens que ça devient compliqué et que ça devient, à mon avis, intéressant.
C'est ça qui fait que ça. Il y a une ambivalence.
Ariane Nicolas.
Oui, pardon, il y a une ambivalence permanente, c'est-à-dire que chaque personnage, au début, effectivement, est l'espèce d'archétype d'un esclave, voire d'un objet qui rentrerait dans une machine à broyer. Et puis, plus la série se développe, plus on se rend compte que déjà, ces personnes, au final, ne le vivent pas si mal. Je veux dire, elles finissent par travailler, elles ont une forme de reconnaissance dans leur travail qui n'est pas forcément catastrophique. Et par ailleurs, je crois surtout qu'au niveau de la saison 2, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même certains retournements. Et je pense que là où il y a Apple qui revient d'une certaine manière, c'est que, bon, certes, on sous-traite une sorte de critique marxiste à une entreprise valorisée 1 000 milliards, donc c'est absurde. 3 000 milliards. Donc c'est complètement absurde, de même manière que Netflix, on sous-traite la critique marxiste, mais bon, Jugo fait pareil, hein, avec Squid Game. Bon, ça, on passe, c'est cynique, etc. Mais justement, en fait, il y a une sorte de retour du refoulé d'Apple dans la saison 2, à mon avis, qui est de dire, OK, on a fait cette critique du travail, vous la connaissez, c'est l'aliénation, c'est la fragmentation. Mais il y a une question qui, à mon avis, perce, qui est, on va faire l'hypothèse un peu inverse, donc il y a un truc dialectique, c'est, et si ces personnages qui sont au travail, ce qu'on appelle les inis ou les inter en français, ceux qui ne sont que laborieux, et si au fond, ils n'étaient pas des meilleures personnes que leur double à l'extérieur?
Alors c'est ça qu'on va discuter dans la deuxième partie de l'émission.
Sleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you. How we sail with the stream flowing by. And then when I kiss you and held you so near.
Voilà, un extrait de la musique de Sévrance, la série qu'on est en train de discuter en ce moment, dont non seulement le casting est formidable, mais la BO également, on est en train de se le dire pendant l'entracte. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette émission, et effectivement, la fin de la première saison et toute la deuxième, les six premiers épisodes en particulier, creusent une histoire très intéressante, qui est la question de savoir si les personnes aliénées qui se retrouvent dans le milieu du travail, donc outre que leur personnalité externe, ne développent pas des personnalités en tant que telles, autonomes, avec leurs désirs, avec leurs liens, et peut-être moralement meilleurs que ceux qui sont à l'extérieur, ce qui fait que les choses se retournent à un moment donné. Vous aviez commencé.
Oui, bah, écoutez, je pense qu'effectivement, c'est vraiment là où il y a quand même une surprise, hein, dans le scénario, parce que je pense qu'on se serait assez vite ennuyé si ça avait juste été un approfondissement de la saison 1. Donc, ils font ce pari-là de dire, notamment par exemple, je pense à un personnage qui est le personnage de Dylan, qui traverse une sorte de crise un peu existentielle dans sa vie à l'extérieur, et en fait, qui, d'une certaine manière, imagine, il ne le sait pas puisqu'il n'a aucun souvenir, mais imagine qu'il est plus heureux dans sa vie laborieuse. Et sa femme, qui en a un petit peu marre de le voir traîner les pattes à la maison, pas trop s'occuper des enfants, finit par aller lui rendre visite dans l'entreprise, ce qui est un peu une sorte de transgression, et puis ce qui est un risque, parce que son mari, elle le connaît d'une certaine manière, et elle va découvrir la face B de cet homme. Et de fait, quand elle le voit, quand elle commence à discuter avec lui, elle se rend compte qu'elle s'attache davantage. Et c'est comme si elle retrouvait un homme qu'elle avait aimé, qu'elle a perdu, parce que la vie est passée par là, il y a eu de la fatigue, il y a eu des déceptions. Et que cet homme qui, certes, est dans la performance, qui, certes, a une subjectivité qui est tout à fait conditionnée, voire empêchée, au fond, a des qualités qu'elle a perdues en dehors. Les qualités, ça peut être des qualités morales, une forme de bienveillance, avoir une rigueur, de la diplomatie. En fait, des qualités que le travail nous demande pour ne pas être en permanence en conflit avec les autres, et qui fait que quand on sort du travail, peut-être qu'en fait, on perd des compétences qui nous aideraient à mieux vivre. Et l'idée derrière, c'est que l'idée d'un monde où il n'y aurait pas de travail, où on ne travaillerait jamais et où on ne se réaliserait pas dans le travail, même si c'est un terme qui est tout à fait contestable. L'idée n'est pas d'être épanoui, on n'est pas dans quelque chose du développement personnel, mais une société de pur loisir, voire de pure oisiveté, où on passerait notre vie à regarder des séries, etc., c'est en fait aussi relativement cauchemardesque.
Il y a dans la série, il y a le personnage d'Irving, qui est joué par Turturro, dit au personnage de Elier, c'est un état contre nature pour une personne de ne pas avoir d'histoire, ce qui est le cas pour eux. L'histoire fait de nous quelqu'un, elle nous donne un contexte, une forme. Et en fait, petit à petit, chacun, à force d'interagir, ces gens qui n'ont aucun passé quand ils sont dans l'entreprise, qui ont tout oublié d'eux-mêmes jusqu'à leur nom, vont développer des histoires autonomes.
Ils arrivent à l'état de nouveau-né, on peut dire, d'une certaine manière, ouais. Quand on les rencontre, effectivement. En tant que personnage, on a la chance et un peu le privilège de découvrir des personnages à vue, finalement. Ce qui est assez rare dans le monde des séries, où on arrive avec des personnages qui ont un background, des liens déjà préétablis, une existence qui nous précède. Avec Sévrance, on arrive à découvrir ces personnages comme ils se découvrent eux-mêmes. Ce qui est très intéressant. Et au final, quand on se développe, quand les épisodes passent et qu'ils ont de quoi gagner en épaisseur. Il y a vraiment une fracture qui s'opère entre les innies et les outies. Je pense
ceux
notamment
qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur.
Exactement. Une très très sévère fracture. Je pense notamment au personnage d'Ellie.
Oui, bien sûr.
Qui est incarné par Brit Lower, qui est assez génial. Qui, elle, est vraiment en rébellion totale avec son personnage extérieur, avec la personne qui l'envoie chaque matin au travail. Il n'y a pas du tout le même jeu de la part de Brit Lower entre son monde intérieur et son monde extérieur. Ce monde extérieur dans lequel elle incarne finalement...
Non, on ne va pas dire qui elle est.
Elle incarne un personnage qui est très sévère, très rigoureux, qui n'est pas du tout cette femme que l'on découvre dans le monde du travail, qui est très sociable, très spontanée.
Oui, oui. Alors, il y a un article de New Statesman qui analyse la série, a des considérations intéressantes que je vais livrer à la réflexion. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée de se débarrasser de son passé, en fait. C'est-à-dire que quand ils arrivent, c'est le cas de Marc qui se laisse embaucher, qui décide de faire la séparation parce que sa femme est morte et qu'il supporte pas. Il est devenu alcoolique, il supporte plus sa vie réelle. Et donc, en quelque sorte, il repart de zéro. Il est libéré de ce qu'il ne veut plus être. Sauf que l'idée du New Statesman, c'est que les internes de la boîte ne sont pas des faux self. Ils sont pleinement authentiques. Ils ne sont pas retenus captifs dans un sous-sol. Ils sont retenus captifs dans un sous-sol et abreuvis d'idéologie de l'entreprise. Mais ils sont aussi psychologiquement libérés de ce qui les retient à l'extérieur. Et la question qui se pose, c'est qu'à un moment donné, aucune des deux personnalités n'est vraiment totalement l'individu, ou les deux le sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi, en fait. C'est à ça qu'on arrive à la fin de la saison. Léa Colombo, ensuite Eric Sadin, et ensuite Ariane Nicolas.
On peut se demander, finalement, d'une certaine manière, pour répondre à l'article que vous venez de citer, si les internes sont réellement libres de leur passé. Car est-ce qu'on peut réellement refouler pleinement qui nous sommes, ou est-ce qu'au contraire, et c'est la question que pose Sévrance, est-ce que ces états de conscience, cette histoire ne nous transcende finalement pas? On découvre au fur et à mesure des épisodes que ce n'est pas forcément le cas, et que qui nous sommes à l'extérieur a tendance à un petit peu retomber, à pleuvoir sur nous, de manière parfois inattendue.
Et il y a un des éléments dans la série qui est le beau-frère de Mark, le personnage de Rick and Hale, qui a publié un livre de self-help, de développement personnel, baptisé « Le vous qui est en vous », qui est un tissu de conneries, mais à l'extérieur. Mais une fois que le livre est intuit, est mis à l'intérieur, les Innies découvrent des choses qui vont les aider à se révolter contre l'entreprise. Eric Sada.
Bon, alors, je vous avoue être un peu gêné par tout ce récit des faits. C'est-à-dire comme si on accordait, tant de sérieux à cette narration,
oui,
hein,
oui, oui.
Alors que pour moi, puisque l'hypnose est à la mode, n'est-ce pas, depuis le terme d'hypnocratie qui est sorti, cette grande supercherie dont on a entendu parler récemment, alors qu'à mon sens, on a affaire à de l'hypnose dans le divertissement, on pourrait appeler ça de l'hypnotic entertainment. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est les modalités, hein, ce qui est visé. Ce qui est visé, c'est de créer de l'hypnose, c'est-à-dire de me faire ce que m'a infligé Mark Metzman, puisque quand vous m'avez appelé, Marc, j'avais pas vu la série, c'est-à-dire j'ai vu les 20 en 10 jours, je n'en peux plus, je suis exténué, c'est de créer de l'hypnose, c'est-à-dire de vivre, mais pas de façon forcée, enfin, gentiment forcée, hein, de voir, de se farcir ces séries par des modalités. Il y a des modalités qui sont à l'œuvre, ne soyons pas naïfs. Et là, il y a de l'hypnose, à divers titres, notamment sur les modalités formelles. Alors, il y a tout un dispositif, pour ce qui est le cas de Lumon, il y a une lumière, il y a un design, les murs très bas, quelque chose qui a à voir dans notre vie ordinaire, avec du familier et quelque chose d'étrange. Hein, c'est-à-dire le familier, notre environnement, ouais, du travail. Un peu une inquiétante étrangeté au sens de Freud. Ouais. C'est proche et lointain à chaque fois. Mmh. Déjà, ça, c'est un vecteur qui crée l'hypnose. Mmh. Évidemment, puisqu'il fallait sortir ça de sa boîte magique, il y a évidemment le couloir.
Enfin, vous pouvez dire ça de n'importe quel film d'Hitchcock, hein, si on va parler.
Non.
De David Lynch.
L'inquiétante
étrangeté, c'est...
Oui. Non, mais là, il y a tout un attirail, oui, pour créer, pour conduire à ce qu'on voit se tape, mmh, les 20, excusez-moi de dire taper, parce que c'est ce que j'ai vécu, les 20 en 10 jours, je n'en peux plus, cet après-midi, je vais aller faire une sieste. Donc, il y a des modalités formelles, une lumière très particulière, saturée, sans ombre, qui fait un peu penser des modalités à, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de citations, hein, au Kafka d'Orson Welles.
Le procès.
Au procès d'Orson Welles. Vous savez, en termes de couloir.
Oui, oui.
Moi, je préfère, et de d'immenses couloirs, je préfère une séquence qui dure une minute, dans Playtime de Jacques Tati, qui nous, par un plan extraordinaire qui est bien connu, hein, avec toute une architecture, il y a toute une littérature sur cette séquence qui nous montre en 30 secondes, donc, aussi la scène, vous savez, quand le monsieur Hulot monte sur l'escalator et on voit le travail, hein, des quasi open space à l'époque, hein, je préfère bien plus ça qui dure 30 secondes à chaque fois, qui nous expose comme ça avec beaucoup de délicatesse, plutôt que ce labyrinthe, mon Dieu, qui dure pendant deux séries entières avec l'idée d'une aussi, en termes, pour l'hypnose, pour terminer, d'une narration, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène, comment c'est construit, extrêmement étiré. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les foules pensent, moi, je pense qu'ils ont très peu d'imagination, les scénaristes. C'est-à-dire que tout est fait pour que ce qui dure 15 secondes dure 3 minutes 30. Et c'est à l'œuvre avec la saison 2 qui, à mon sens, n'apporte rien. Et puis, le comble, c'est qu'on a appris qu'il va y avoir une saison 3. Je ne serai pas de la partie. Alors que je pense pour
terminer... Je vous réinviterai pour la saison 4.
Volontiers, Marc, vous êtes tellement gentil. Et pour terminer sur ça, en réalité, je pense... Pour nuancer ce que je dis, enfin, façon de nuancer, parce que ça n'aurait pas produit de la volonté de fidéliser et d'hypnose, je pense qu'un film de 2 heures, ça aurait été un très bon objet pour un film de 2 heures.
Ariane Nicolas et ensuite Léa.
Pour revenir à ce que vous disiez sur la question de l'oubli, pour le coup, je trouve que c'est des questions qui sont philosophiques et qui sont d'une certaine manière universelles, et dans le temps et dans l'espace. La question, c'est est-ce qu'on vit mieux en oubliant ou en n'oubliant pas qui on a été, qui on est. Alors là, il y a Nietzsche qui, évidemment, dans les secondes considérations intempestives, dit que pour bien vivre, il faut arriver à oublier, il faut arriver à laisser une partie, ouais, de son passé derrière soi, sinon on n'arrive pas à avancer. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut oublier que les parties qui sont des parties qui nous font souffrir, parce que le fantasme fantasme, et c'est un fantasme pour le coup assez anglo-saxon, assez utilitariste, de prendre des unités de souffrance et d'espérer que ces unités puissent être éjectées de notre psyché, c'est quelque chose qui, pour l'instant, par la science, n'est pas possible. Mais je pense que c'est un horizon qui est désirable pour plein de gens qui aimeraient être extirpés, enfin qu'on extirpe de leur cerveau ces moments de vie qui les ont fait souffrir. Et tous les personnages, en fait, de la série sont là-dedans, sont dans cet espoir. Et ce que vous disiez aussi sur, donc deuxième temps, sur la question du moi, il y a un moment où Britt Lower, donc Hallie, voit une vidéo d'elle-même de son personnage Exter qui lui dit « tu n'es pas une personne » et qui la menace parce qu'il y a eu un conflit. Il y en a une qui a voulu prendre l'ascendant sur l'autre et l'autre qui lui dit « non, c'est moi qui gouverne, c'est tu es mon esclave, nous sommes certes deux dans le même corps, mais nous sommes je préexiste et donc tu m'obéis ». Et c'est là qu'on se rend compte que effectivement, et je pense que c'est quand même la subtilité de la série, une des subtilités en tout cas, c'est que les deux sont ce que Locke appelle dans son essai sur l'entendement humain, en termes d'identité personnelle, ce sont des personnes. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui savent qu'ils ont une pensée, que cette pensée, ils sont capables de la prendre en première personne, qu'elles ont une réflexivité, l'une comme l'autre. Et c'est ce qui rend la bataille pour savoir s'il faut la libérer beaucoup plus intéressante. Puisque, en fait, libérer une personne qui est censée être déjà libre, c'est vraiment l'enjeu de Severance. Et on ne sait pas exactement comment elle va y arriver.
Et la grande ambiguïté, c'est que sans l'humon, sans l'entreprise qui les aliène et qui a créé cet enfer, les jeux internes n'existeraient pas.
Tout à fait.
Et ils finissent par, à la fin de la saison 2, les deux marques se disputent pour avoir chacun leur existence et avec des désirs complètement antinomiques. Léa Colombo.
C'est vrai que c'est une question très compliquée et qui, du coup, laisse la porte grande ouverte à une saison 3 qui va arriver. Car effectivement, comment on arrive à réunir des individus si dissociés, comment on arrive à les faire s'entendre, c'est notamment le process que la série laisse miroiter avec une procédure qui s'appelle la réintégration, comment faire cohabiter des désirs opposés, et qui est particulièrement compliqué, car si la première saison nous laissait vraiment naviguer à vue, on ne savait pas qui étaient ces personnages, on projetait finalement des attentes et un imaginaire sur leur vie extérieure, la saison 2 nous fait rentrer dans la série avec une connaissance de leur vie extérieure, de leurs désirs extérieurs. Et c'était finalement à nous, en tant que spectateurs, d'arriver à comprendre et d'arriver à placer nos désirs vers l'un ou vers l'autre. Mmh. Et c'est là que toute l'ambiguïté de la série arrive pour une audience qui se retrouve finalement face à un objet télévisuel qui lui demande de choisir.
Oui, tout à fait.
Et qui questionne est invité à questionner sa propre identité. C'est-à-dire que est-ce que nous-mêmes, même si nous avons l'impression d'être une seule personne, dans notre vie, nous n'avons pas des comportements où nous sommes en permanence duplice.
Et on est qui on est en fonction de l'environnement. C'est aussi une des leçons
C'est exactement ce que dit Locke. C'est-à-dire, à part les atomes, un atome tout seul, c'est une chose qui est intemporelle. En revanche, dès que vous mettez un atome en relation avec d'autres choses, il devient quelqu'un d'autre, son identité change.
Alors, pour donner quand même raison sur un point à Éric Sadin...
Le quand même, j'apprécie le quand même.
dans la publicité de la saison 2, on voit Tim Cook, le patron d'Apple, qui intervient dans un clip en figurant d'employés dissociés. Or, quand on regarde le clip, une chose qui frappe, c'est qu'il ressemble beaucoup plus physiquement, non pas aux employés dissociés, mais au patron mythique de la boîte, Egan. Et ça, c'est très curieux et c'est très intéressant à regarder. Éric Sadin.
Eh bien, parce que c'est la tradition, c'est l'école Apple. Alors, vous m'avez dit, cher Marc, que vous m'inviterez éventuellement pour la saison 3. Alors, je veux bien poser je veux bien poser une condition, si vous êtes d'accord. Ouais. Je veux bien poser une condition. C'est qu'elle change son rapport au temps. C'est ça ma condition.
Je m'explique.
Très bien. Les choses sont bien organisées. Je m'explique. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que la séquence temporelle, elle est très bien identifiable. C'est tournant des années 80 à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, on a affaire à un catalogage. Et je dirais, j'espère, on n'apprend rien. En revanche, ce qui pouvait être intéressant dans des séries comme Black Mirror, c'est qu'il y a une audace prospective. Alors, je vous donne quelques exemples auxquels j'ai pensé en quelques mots.
Peu de temps, là.
C'est que ces implants cérébraux, ils n'ont aucune incidence sur la dramaturgie. C'est-à-dire, c'est un tiroir qui permet le scénario, c'est-à-dire la schise, la dissociation. Mais ce qui serait intéressant, par exemple, s'il y a une 3 avec une dimension prospective, parce que c'est pas notre présent qui vient, c'est d'ici 10-15 ans, Neuralink, les implants cérébraux. Qu'est-ce que ça veut dire, implants cérébraux? Ça veut pas dire seulement à terme, dans une hypothèse futurologique, là, d'être connecté à des serveurs. Ça veut dire aussi recevoir des inputs.
Bien sûr.
Alors moi je me dis que dans cette série, c'est Lumon, la puissance de l'entreprise, Tim Cook, vous avez dit Apple, elle est même pas capable d'envoyer, quand les gens se rebellent, d'envoyer des inputs. Donc ça aurait été intéressant ça. Comme il aurait été intéressant en termes de menaces, qu'ils se disent, les gars, vous vous rebellez, attention, il y a les IA qui peuvent faire votre tâche. Vous voyez, quelque chose de prospectif. Or c'est que porté vers le passé, et en ça, ça relève du catalogage,
à mon sens,
et d'une forme de pauvreté.
C'est très intéressant ce que vous dites sur le fait qu'effectivement, ils ne répondent pas à la rébellion par de la violence. Ils répondent à la rébellion par de la récompense ou par
l'intégration
une neutralité finalement très très, très très ambiguë, je vous l'accorde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, à aucun moment dans la série, les personnages sont menacés, brimés. Ils reviennent d'eux-mêmes tous les matins.
Ou déterminés par les puces. Ils ne sont jamais infléchis. Alors,
on va devoir arrêter l'émission ici. Je suis désolé, mais je suis obligé. Vraiment, finissez votre phrase.
Ils reviennent d'eux-mêmes dans l'humain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la série ne raconte pas comment l'entreprise peut punir l'employé, mais elle raconte finalement comment l'employé peut se punir lui-même. Hiding all the way, I was hiding it. I was hiding all the way. You went to the museum and you climbed the spiral stairs. You searched for me all among the knowledgeable air. I was a hidden babe. I was a hiding all the way. I was a hidden dear. I was a hiding all the way. You entered the cathedral when you heard the solemn knell. I was not sitting with the gargoyles. I was not swinging from the bell. I was hiding, dear. I was a hiding all the way. I was a hiding, dear. I was a hiding all the way.
Voilà, merci à tous les trois. Merci Léa Colombo. Vous êtes donc aux Echo Weekend. Merci Ariane Nicolas, journaliste à Philosophie Magazine.
Merci à vous.
Et merci Eric Sadin.
Merci à vous.
Comment s'appelle votre prochain livre cet automne? Le désert de nous-mêmes, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Juliette Marcaillou, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Some advice. Well, he shot you full of pethidine, and then he went and billed you twice.